Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Fondateur fondu de voyages et de photos, Didier Almond a jeté un pont entre le lointain et le sien pays en créant la Compagnie des voyageurs dans les locaux de l'ancienne manufacture textile de Montaulieu, dans l'Aude. Personnage hyperactif et haut en couleur, il met chaque année des routes infréquentées du monde sous ses semelles, tantôt en Australie, tantôt en Indonésie. Ce Nicolas Bouvier français, insatiable, ne voyage pas, lui, en Fiat Topolino, mais le plus souvent en tuk-tuk, à moto, ou en bateau, ou à pied dans la jungle. Sa soif de paysages et de rencontres ne connaît aucune limite. Nulle frontière ne freine sa mobilité. Un appétit qui ne m'a jamais lâché depuis l'âge de 15 ans et que je nourris toujours et encore, mentionne Didier en quatrième de couverture de son dernier ouvrage en date, La Diagonale du Vagabond. Le voici qui repart avec Dilou, son amoureuse, je le cite, à la croisée des chemins de nos envies. Cette fois, ce sera encore l'Indonésie et sa myriade d'îles émiettées sur l'immense archipel indonésien tout au long de plus de 5000 kilomètres. Îles dont les noms forment pour lui les paroles d'un irrésistible chant de sirènes. Lombok, Flores, Komodo, Bali, Nusa Penida, sans parler de la grande Java, ayant peu à voir avec nos balmusettes d'antan. Ils sympathisent l'un et l'autre à tout va avec des ethnies aussi singulières que riches d'enseignements pour des Occidentaux. Les apologues du voyage sont les amis de Didier. Et c'est ainsi que Didier et Dilou se lient un jour d'amitié avec une autre grande voyageuse, Linda Bortoletto, ancienne capitaine de gendarmerie, devenue exploratrice et auteure de livres d'aventure. Le temps fort de la reconnaissance mutuelle se produit à Bali. Préfacière du livre de Didier, elle écrira quelques mois plus tard ces mots qui valent brevet. Odile et Didier n'ont donc pas voyagé en Asie du Sud-Est, ils ont vécu l'Asie du Sud-Est. Derrière l'objectif et la plume, il faut dès lors imaginer deux cœurs en mouvement unis par un seul et même élan s'enivrer du nectar de l'Orient. Laissons maintenant la parole à Didier Almond.
Chers éditeurs, bonjour. Nous sommes en compagnie de Didier Almond, dans un local atypique s'il en est, et magnifique s'il en est. Nous sommes où exactement, Didier ?
Nous sommes dans la galerie, dans ma galerie, la Compagnie des Voyageurs, qui est une galerie qui s'inscrit dans un collectif d'artistes très informel, peut-être un peu anachronique.
Informel, ça veut dire quoi en l'occurrence ?
Ça veut dire qu'ici, chacun est libre. Une fois qu'il a payé son loyer, il fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de règles vraiment précises, formelles, cadrées, qui dirigent ce centre d'art. Parce que, c'est un centre d'art, surtout à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, où nous sommes 4 ou 5 artistes résidents, permanents, mais où, après, nous invitons une vingtaine d'artistes pour la saison. Ce qui fait qu'ici, on se retrouve les entre 19 et 22, 23 expositions dans des locaux qui font plus de 1000 mètres carrés au sein d'une manufacture qui remonte à 1735, dont l'origine remonte à 1735, et qui fait 14 000 mètres carrés, dont une grande partie est en friche. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un endroit assez atypique dans le village du livre et des arts qu'est Montaulieu, dans l'Aude.
Très bien. Et ces 4 à 5 artistes qui sont en résidence, alors qu'est-ce qu'ils pratiquent comme forme d'art ?
Alors, on a un designer, on a un peintre, on a deux peintres, parce qu'il y a Willy Bain et Christophe Souk, il y a Valérie qui fait de l'art textile, Marie qui fait aussi de la peinture. Et après, on invite des sculpteurs, des peintres, des photographes, c'est sur sélection, hein, bien sûr, les gens postulent, et ça permet donc d'offrir une offre culturelle et artistique assez importante.
Voilà. Et alors ici, donc, vous l'avez dit à l'instant, nous sommes dans la compagnie, enfin, chez la compagnie des voyageurs. Voyageurs, vous-même, voyageur invétéré,
oui.
Si vous me pardonnez
l'expression. Non, je suis un voyageur invétéré. J'ai quitté la maison, j'avais 15 ans et demi, j'en ai 64.
Ah, ouais.
Et j'ai commencé par voyager, partir en Europe en stop. J'ai fait pas mal de... un peu de manche pour vivre quand j'étais très jeune. Mmh. Et puis la vie m'a amené après, à droite, à gauche, à fréquenter plein de gens différents qui m'ont fait confiance, hein, ça c'est important, qui m'ont permis après d'embrasser une carrière de journaliste, hein, à la télévision pendant une vingtaine d'années, où j'ai fait pas mal de reportages à l'étranger, de grands documentaires, enfin de reportages documentaires. Et quand j'ai décidé d'arrêter le journalisme, je suis parti en Inde pendant un an avec ma femme et mes trois filles qui étaient jeunes. Elles avaient 14 ans, 11 ans, 10 ans. Et au retour de ce voyage de un an en Inde, comme j'avais acheté un appareil photo numérique, c'était l'avènement, le début du appareil photo numérique, c'était en 2004-2005, ben j'ai décidé de faire une exposition à Montpellier qui a très bien marché. Et comme j'avais arrêté le journalisme, et ben j'ai décidé de continuer dans la photo.
Ouais.
Et depuis, j'ai ouvert des galeries et je vis maintenant de mon travail de photographe à travers le voyage.
Et d'auteur.
Et d'auteur, oui. Oui, parce que j'écris aussi, bien sûr.
Une belle écriture.
Voilà, ça
tout
c'est...
Tout à fait personnel, d'ailleurs.
Ouais,
avec
c'est...
des pirouettes verbales.
Oui, oui, oui. Enfin bon,
c'est ce qui se dit.
C'est ce qui se dit, en tout cas, tant mieux. Mais ouais. Oui, comme j'ai été journaliste, c'est vrai que je pratique aussi le verbe. Et le fait est que ben, moi, je voyage parce que c'est ma passion.
Still bad water stings. I'm on a fire. This building all the same. trying to find the short way home. Over roots, body knees, and the bent over trees, you're trying to find the way back home. You're trying to find the way back home. You die to find the short way home.
Je voyage déjà pour une connaissance personnelle du monde, parce que pour moi, c'est très important de mieux connaître le monde possible. Et surtout, je voyage aussi beaucoup pour rencontrer les gens, partager avec eux, cultiver des valeurs qu'on a un peu perdues, qui sont l'humilité, la confiance, l'acceptation, la tolérance, qui sont des vertus qu'on a beaucoup perdues dans nos sociétés, où on est hyper formaté, encore une fois. Et pour moi, c'est très important. Et j'ai eu la chance de rencontrer ma compagne, Dilou, qui est exactement sur la même longueur d'onde que moi. Et donc, on est parti voyager
ensemble.
Alors là, on est parti un an en Asie du Sud-Est, effectivement, où on est allé faire des expéditions chez les Melancabo, chez les Toraja, chez les GPC, ou qu'on appelle aussi les Bajo, qui vivent sur les bancs de sable en mer de Bandas. On est allé chez les Mentawai, dans les tribus, les peuples premiers qu'on appelle, au cœur de la jungle. Donc, on a vécu des expériences absolument magnifiques.
Et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, alors, ces peuples premiers donc,
Déjà, ce qu'ils ont à nous dire, c'est qu'eux se défendent de tout ce qui est superflu. Ils ne savent pas ce que c'est que le superflu. Ils ont besoin d'un animal pour manger, ils vont le chasser. Mais ils ne prélèvent que ce dont ils ont besoin. Ils sont assez mystiques, il faut être honnête, puisqu'ils sont quand même dirigés beaucoup dans les tribus par les chamans, qui sont l'homme médiateur, l'homme de paix, de justice, le médecin, et en qui ils ont grande confiance. Ils vivent simplement de ce que la nature leur offre. Et c'est pour nous, évidemment, qui sommes nantis de tout, c'est à peine croyable. C'est à peine croyable.
Et
ça fonctionne très bien. Et ça fait du bien de le vivre.
Vous êtes allé aussi en Australie.
Oui.
En Australie, il y a aussi une présence comme ça de, à travers les aborigènes,
oui,
naturelle, mais d'une conception qui est tout à fait autre que la nôtre. Vous avez des souvenirs?
Oui. Alors, moi, l'Australie, j'y ai passé, dans ma vie, j'ai dû y passer presque un an, en fait, en 3 séjours. Et essentiellement, 90% de ces séjours se sont faits dans le désert, dans le bush, où j'ai vécu avec les éleveurs de bétail plusieurs mois. Dans des conditions difficiles, parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont des problématiques d'eau. Il faut savoir que les ranchs en Australie sont grands comme le département de l'Aude. C'est un ranch, c'est un petit ranch. Voilà, pour se donner une dimension un peu de ce que peut être un ranch. J'ai vécu avec les gold miners, les chercheurs d'or, donc. Et j'ai eu la chance d'être invité dans une famille aborigène, dans le Grand Nord, dans les Kimberleys, où j'ai passé 15 jours avec une famille aborigène. Et là où j'étais vraiment en contact direct avec une culture qui m'a déstabilisé, parce que pour nous, l'aborigène, évidemment, c'est l'homme rattaché à la terre, c'est l'homme qui a un grand respect de la nature. Or, les aborigènes qui existent actuellement, que moi j'ai croisés en Australie, ce sont des aborigènes qui boivent, par exemple, quand ils boivent leur bière, et bien ils balancent leur canette dans le désert. Ils n'ont pas de poubelle, ils les jettent, ils pourrissent ce désert.
Comment ils sont affectés par le modernisme aussi.
Exactement, le modernisme.
Ils s'en défendent suffisamment?
Non, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Il y a des communautés, on ne peut pas y accéder. Il faut des autorisations spéciales du gouvernement pour accéder aux communautés aborigènes. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance de vivre dans une famille aborigène pendant 15 jours, parce que j'ai pu les approcher de près. Et quand je discutais donc, avec une Australienne blanche, de ce phénomène, je dis, mais je comprends pas. Justement, je pensais que moi, les aborigènes étaient des gens qui étaient très en osmose avec la nature. Elle m'a dit, oui, mais elle dit ça, c'est la vision politique des Européens. Alors, j'étais très intéressé par cette formulation, la vision politique des Européens. Elle dit, les aborigènes, eux, ils se sont jamais posé la question. Tout ce qu'ils utilisaient dans le désert se recyclait. Mais quand le métal est arrivé, ils ne se sont pas posé la question de savoir si ça se recyclait ou pas. Pour eux, c'était naturel. Ça se recycle.
Un peu comme nous, d'ailleurs. Si on revient en arrière, 19e siècle.
Exactement.
On ne peut pas poser la question non plus.
Non, exactement. Il a fallu beaucoup de temps pour se rendre compte qu'on est obligé de rentrer dans du recyclage, qu'il y a de la pollution. Mais pour les aborigènes, ils font comme ils faisaient avant, quand ils jetaient leurs feuilles qui leur servaient d'assiette, ça se recyclait dans le désert. Et ben, pour eux, une canette, ça se recycle. Les plastiques, ça se recycle. Ils ne se posent pas la question. Donc c'était une approche très intéressante, cette approche poétique que nous, Européens, nous pouvions avoir pour la défense des peuples, justement, aborigènes, qui sont en osmose avec la nature. Mais moi, je répondais toujours, c'est vrai que, in fine, qui sommes-nous pour leur apporter des leçons ?
Bien sûr. Donc des voyages, beaucoup de voyages, des voyages qui sont formateurs pour la jeunesse, mais la jeunesse, pour l'instant, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu empêchée de voyager comme vous l'avez fait ?
Alors,
par les événements, les tensions.
Je vais être honnête, quand j'ai commencé à voyager, j'étais extrêmement déçu par les Français en voyage. J'ai rencontré beaucoup de Français qui se comportaient très mal, notamment en Inde, que je connais très très bien. J'ai fait beaucoup de séjours en Inde. Et j'étais extrêmement déçu, et même des fois j'avais honte de dire que j'étais citoyen français. Et ces dernières années, j'ai changé un peu mon opinion, parce que j'ai rencontré beaucoup de Français qui voyageaient de façon beaucoup plus éthique. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'étais un peu précurseur en 2003, 2004, 2005, de partir pendant un an avec mes trois filles. Mais pendant notre voyage en Asie, avec Dilou, on a rencontré énormément de familles qui partaient 3-4 mois avec leurs enfants, 5 mois. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux parce que c'est une éducation qu'on apporte à nos enfants. En tout cas, ce sont des clés.
Et qui avait une philosophie du voyage.
Oui, qui était beaucoup plus éthique et beaucoup moins touristique. Hein, où il y a des gens qui veulent arriver dans un hôtel, payer 20 dollars, puis avoir la piscine, le logement irréprochable, le guide parfait. Bon, ça, tourisme sur tourisme, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais on a rencontré beaucoup de jeunes, de trentenaires. Hein. Donc, ça m'a rabibouché un peu avec les voyages et les jeunes en voyage. Et je suis ravi de ça. Franchement, je suis ravi de ça.
Mais alors, ce lieu, là où nous nous trouvons, la compagnie des voyageurs dans la manufacture de Montolieu, apparaît très vite comme un concentré de vos voyages, justement, parce qu'on y trouve des photos de... aussi bien d'Indonésie, je crois, que d'Australie, du Sri Lanka.
Inde.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voulez montrer avec ce lieu ?
Ah bah alors, déjà, moi, c'est ma passion. Donc, forcément, ça joue quand même, c'est important. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce lieu, c'est que je rends ce lieu un peu comme j'aime mes voyages, c'est-à-dire au feeling. Ouais. Nous, quand on part en voyage, on n'a pas de plan préconçu. On se laisse beaucoup porter, guider par les gens qu'on rencontre, par nos rencontres, par les partages qu'on a. Et ce lieu, il se porte pareil. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, je peux être ouvert jusqu'à 4 heures du matin, parce que je dors sur place. Ouais. Tant que je suis debout, c'est ouvert. Ouais. Et donc, il y a des gens qui peuvent débarquer à minuit. Ouais. On boit l'apéro, on mange un morceau ensemble, on discute, on échange. Quelqu'un qui veut m'acheter une photo, moi, je prends pas la carte bleue. Pas de connexion. Bon. Et du coup, les gens qui veulent m'acheter une photo, qui me prennent une photo à 200 ou 300 balles, enfin 300 euros, je leur dis « Ah, mais vous prenez pas la carte... » Ils me disent « Vous prenez pas la carte grise ?» Je dis « Non, mais c'est pas grave. » Je dis « Prenez la photo. » Et quand vous êtes rentré chez vous, à Paris ou ailleurs, vous me faites un chèque ou vous m'envoyez un virement sur mon IBAN. Et les gens sont extrêmement étonnés de ça. Et honnêtement, je le pratique depuis 6 ans. Je n'ai jamais eu de défaut de paiement. Jamais aucun défaut de paiement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je réinsère dans la relation sociale ce que j'appellerais tout simplement de l'humanité normale, quoi. De la confiance, du respect, du partage. Je veux dire, il ne me viendrait jamais à l'esprit de rentrer chez un boucher, de lui piquer 1 kilo de steak. Je vois pas pourquoi quelqu'un puisse créer une photo. Enfin, je veux dire, c'est...
Surtout quand il a une relation quelques instants, voire plus.
Plus, parce que des fois, ça peut durer des heures.
Racontez vos voyages.
Donc, du coup...
Oui. D'ailleurs, on entend ici, en fond, un petit peu, des amis qui se sont regroupés là-bas, je crois, des admirateurs aussi de votre travail. Et... il va en venir encore beaucoup comme ça. Vous parliez de 4 heures du matin. Vous pensez qu'ils vont rester longtemps ?
Là, c'est ouvert. Oui, on va boire l'apéro. Là. C'est ouvert. Tant qu'il y a des gens qui viennent, c'est ouvert. Il n'y a pas de souci.
Venez nombreux à la manufacture et en particulier pour ce qui nous concerne maintenant, à la compagnie des voyageurs.
Alors, ce qui peut être peut-être intéressant de préciser, c'est que le week-end du 9, 10, 11 novembre,
très bien.
On fait un événement spécial parce que la galerie est fermée normalement l'hiver, eu égard à mon état de santé. Mais par contre, ce week-end-là, le 9, 10, 11 novembre, on fait un week-end spécial pour la sortie d'un calendrier d'artistes, photos, 12 mots, 12 textes, 12 photos. Avec un concert apéro le samedi 9, au soir, où là, il y aura un concert, l'apéro qui est offert, bien évidemment, et après, toutes les discussions autour du voyage et de ce fameux calendrier qu'on sort à ce moment-là, comme on a fait l'année dernière pour la sortie du livre sur notre voyage en Asie, la Diagonale du Vagabond.
Voilà. On peut le commander où, celui-là ?
Ben là, c'est fini. J'ai fait un compte d'auteur, 300 exemplaires, tout est vendu.
Oui.
Alors, il n'est pas impossible que l'année prochaine, on tire un petit retirage de 100 ou 150.
Ouais.
On n'a pas encore pris la décision. Mmh. Mais eu égard au fait qu'on l'a très bien vendu et qu'il y a encore de la demande, peut-être qu'on fera un retirage l'année prochaine.
Un livre magnifique.
Oui, c'est gentil.
Avec
c'est
des
gentil.
Textes formidables
et surtout 300
des photos.
Pages, voilà, 300 pages de textes et de photos.
Oui.
et qui raconte pas, alors qui ne raconte pas notre voyage, parce qu'on
qui
a
raconte les peuples que vous avez rencontrés,
qui rencontre, voilà, nos points forts, ouais. Ce qui nous a touchés, émus, ouais. Et tout, bien évidemment, les expéditions qu'on a montées, mais pas seulement.
Ouais. Donc encore une fois, la date en novembre.
C'est 9, 10, 11 novembre.
Voilà.
Le samedi, dimanche, lundi, puisque le 11 est férié. Pendant 3 jours, la galerie sera ouverte avec la vente du calendrier qui sera dédicacé, signé. Et bien évidemment, le samedi soir, on fait un apéro festif avec des copains qui viennent de Toulouse, animer tout ça, bien déjanté, bien dans l'esprit de la galerie, voilà. Très rock.
Déjanté. Voilà. Nous y serons. Merci Didier Allemand.
Merci Pierre-Jean.
Et bon événement donc en novembre.
Merci beaucoup.
Here we go.
Woo! very much. Enjoy.
Chez les Mentavai, le voyage. Cet article en Cinémascope et les deux autres à venir nous plongent au cœur de la forêt équatoriale de Siberut, dans les îles Mentavai, au large de Sumatra. Elle relègue la jungle d'Indiana Jones au rang de gentille petite forêt champêtre pour Mickey Mouse. Se rendre aux Mentavai relève de l'expédition. En arrivant de Bali, nous atterrissons d'abord à Padang, Sumatra Ouest. 7 à 10 heures de vol en fonction des escales à Jakarta. Une fois sur le tarmac, un taxi nous dépose au port pour un bateau en partance. 7 heures de navigation nous propulse à Siberut, une île au large de Sumatra, appelée aussi île Mentawai, du nom des tribus qui l'habitent. Là, nous sommes pris en charge puis installés sur le plateau d'un mini-truck. Debout pendant 2 heures sous la pluie à nous tenir aux arceaux de sécurité, nous roulons sur une route défoncée. Maintenant, je sais parfaitement ce que le verbe « brinque-baller » signifie. Le van stoppe à Kodok, petit village de jungle, et point de départ pour rejoindre les tribus. Nous changeons de monture. Une barque à fond plat nous attend. Nous chargeons nos sacs à dos et le matos photo. Nous sommes à l'étroit et l'équilibre de la pirogue est bien l'affaire de tous. Nous remontons lentement la rivière Sarerayket au rythme de son moteur de temps et méandre après méandre, nous nous enfonçons au cœur de la végétation. Je ressens un sentiment de totale liberté et surtout de grande sérénité. Si loin de tout ce qui fait notre quotidien en Europe, nous sommes juste heureux. Vous savez, de ce bonheur simple lié à peu de choses, de celui qui vous étreint quand, dans une émotion positive et partagée, vous voyagez au firmament de votre esprit et de vos rêves qui se réalisent. Le temps n'a plus la même valeur. Enfin, notre piroguier nous débarque à côté d'un petit bout de monde perdu sur un bout de nulle part. Et Rou, notre guide, relève une grande feuille délicatement avachie sur le départ d'une piste étroite, tunnel végétal dans la jungle spongieuse à souhait. On s'enfonce encore et toujours dans cette végétation luxuriante et touffue pour une dizaine de kilomètres avant notre ultime étape et nos derniers efforts. La progression reste compliquée et difficile tant le terrain est hostile. Boue et humus omniprésents, ornières, cours d'eau, racines, épineux, ponts de bois faits de troncs et de branches pour passage en équilibre sur un terrain toujours détrempé et glissant. Beaucoup de troncs pourris. Ici, les rayons du soleil n'atteignent pas toujours le sol. C'est ainsi. Nous sommes sur l'équateur. Au cœur d'une végétation aux multiples essences de bois où le taux d'humidité titille les 95%. Les corps souffrent, mais l'esprit reste affûté et s'émerveille. Enfin, au détour de la piste, nous découvrons le toit en feuilles de sagoutier d'une houma, grande maison collective familiale traditionnelle. Nous sommes accueillis par les familles Daman Sazali et Turak Kerai, l'un des 30 clans de l'île de la communauté des Simatawai, plus connu aujourd'hui sous le nom de Mentawai, les hommes fleurs. Nous n'arrivons pas les mains vides. Pas d'argent, à quoi servirait-il? En revanche, ils sont friands de certains produits qu'ils ne trouvent pas dans la jungle. On leur apporte du sucre, du café et du tabac. Ce sont de gros, très gros fumeurs. Nous allons vivre plusieurs jours exceptionnels. La soirée est consacrée à discuter et découvrir leur culture. La traduction est assurée par Eru, notre guide. Les échanges autour du repas traditionnel composé de sagou, de racines de taro, de riz et de poulet nous entraînent jusqu'à tard le soir au regard des critères de la jungle. 21h. Hommes, femmes, enfants, chiens et chats se côtoient et se mélangent à même le sol sur de grandes nattes déroulées pour l'occasion. Dans la structure familiale des Mentawai, il n'y a pas de chef. Chacun sait ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire. Le quotidien s'écoule selon un rythme naturel et sans friction. La Uma d'Amansazali abrite 2 familles, soit 12 personnes. Elle est au centre même de la vie du clan, centre physique, spirituel, familial. La Uma structure toute la communauté. Ici, pas d'électricité, seule une lampe LED alimentée par un minuscule panneau solaire découpe à peine nos ombres dans le noir profond de la nuit. Pas d'eau courante au robinet, mais la rivière, à 50 mètres de là, pour la douche, le bain, la vaisselle ou le linge. Pas de toilette reliée au tout à l'égout, mais juste la forêt dense au pied des arbres, sur un sol jonché de feuilles de palmiers et au son nocturne d'une jungle en reptation. Un autre monde pour une autre vie, étonnant et fantastique à la fois, bien loin de notre zone de confort et de nos petits soucis du quotidien. Chers auditeurs, cette émission va prendre fin. Nous nous quittons sur une musique aborigène de l'eau. Les 3 pauses musicales vous ont permis d'écouter successivement The Builders and the Butchers, Short Way Home. Ensuite, The Wanton Bishops, Sleep with the Light On, ainsi que l'époustouflant Jazzy Smith dans son Bluesberry Jam. Remerciements à Grégor, à la technique, qui a rendu cette émission possible. Merci à nos 2 présidents, Jacques Lavergne et Jean-Luc Palévaudy, qui mettent à disposition l'ensemble des moyens nécessaires. À bientôt. Thank you.